sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai expliqué l'abîme avec les différentes parties. Il s'agit ici de cette deuxième partie, donc de Sheol. Il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Une puits qui fait monter une fumée qui obscurcit le soleil et l'air. Ça fait penser un peu à ce volcan en Islande il y a 2-3 ans, qui a perturbé tout le trafic aérien. Ceci est beaucoup pire que ça. Et de la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Les sauterelles du temps de la Bible étaient, on avait tellement peur des sauterelles. C'était une plaie terrible dans les pays du Moyen-Orient contre lequel l'homme était complètement sans protection. Des insectes qui descendaient sur la terre, qui dévoraient tout dans l'espace de quelques minutes. Et Dieu, dès le début, il a menacé des rétrogrades avec des plaies de sauterelles. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences, dit Dieu. Tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Il s'agit des pécheurs. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Il dit, et parurent des sauterelles. Des sauterelles sans nombre qui dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits des grands champs. Qu'est-ce que l'homme faisait à l'époque contre ces plaies de sauterelles? Ils allumaient des grands feux, avec beaucoup de fumée. Est-ce que vraiment ça a chassé les plaies de sauterelles? Probablement pas. Mais c'était le seul moyen qu'ils connaissaient pour essayer quand même d'atténuer un peu les dégâts. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi j'ai l'impression ici, et nous allons lire quelques versets plus loin, je pense qu'il va confirmer ce que je dis, que ces sauterelles ici ne sont pas des sauterelles normales. Ce sont des sauterelles figuratif. Et encore une fois, Jean se voit obligé de chercher dans le vocabulaire limité qu'il possède des paroles, des mots pour décrire quelque chose qu'il ne sait pas décrire. Et alors il dit « sauterelles ». Mais de la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dire de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Faut pas dire ça, une sauterelle, n'est-ce pas? Une sauterelle fait du dégât à tout ce qui est vert, c'est sa nature. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. On accorde à ces sauterelles-là une intelligence qu'un sauterelle normal ne possède pas. Il leur fut donné non de les tuer, ces sauterelles, non de tuer les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle cause était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Il paraît que c'est très, très douloureux, ça. Ces sauterelles, et maintenant, on voit que ce ne sont pas des vraies sauterelles. Ces sauterelles ressemblaient à... Vous me suivez? Jean, de nouveau, il voit quelque chose, il ne sait pas ce que c'est. Il doit essayer de le décrire. Nous, on prendrait une photo. Mais Jean, il n'a pas de GSM. Il n'a pas d'appareil de photo. N'est-ce pas? Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme, de nouveau, image, comme des couronnes, semblables, de nouveau, image, à de l'or. Et le visage était comme des visages des hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Donc, tous ces ressemblants, tous ces comme, tous ces semblables, ce ne sont pas des sauterelles. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? On dirait des chars, des armes très modernes, n'est-ce pas? De notre temps. Et qu'est-ce que ça décrit? La cavalerie, les chars du diable, de l'armée du diable. Je me suis dit que, même si ce n'est pas indiqué ici dans le livre de l'Apocalypse, justement ici, ce serait intéressant de comparer la description de l'armée du diable à la description donnée par la parole de Dieu des armées du ciel. Nous venons de lire la description de l'armée du diable. Je vous lis maintenant la description de l'armée du ciel. Vous allez voir lequel est le plus puissante. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retenir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient, comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. Allez entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme de feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Là, c'est le prophète Joël qui a le même problème que Jean. Dieu lui montre quelque chose, il n'a pas le vocabulaire pour le décrire. Alors de nouveau, tout des comme et des comme et des comme. Devant eux, les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres, chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandirent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles retire leur éclat, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissante, car le jour de l'Éternel est grand et il est terrible. Qui pourra le soutenir? comparé à l'armée du ciel, il est clair que l'armée de l'enfer n'a absolument aucune chance. Revenons à ces sauterelles de la cinquième trompette. Encore quelque chose qui prouve que ce ne sont pas des sauterelles normales. Elles ont un roi. Tandis que la Bible dit, les sauterelles n'ont point de roi. Et le roi des sauterelles de ce cinquième jugement, il est qui ce roi? Eh bien, l'ange de l'abîme lui-même. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Abaddon veut dire destruction. Apollyon veut dire destructeur. C'est le diable lui-même qui mène son armée de sauterelles. Ces sauterelles sont donc quoi? Des démons, n'est-ce pas? Qui reçoivent de la puissance comme celle des scorpions, des insectes dont la morsure venimeuse entame un mal terrible, une souffrance atroce. En contraste des autres jugements qui passent assez vite, ce jugement-ci dure 5 mois. Une piqûre qui fait terriblement mal et la souffrance, la douleur dure 5 mois. Insupportable. C'est dans leur cœur qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Écoutez bien, la souffrance de ceux qui sont piqués par ces sauterelles est si terrible qu'ils préféreraient mourir. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Jérémie dit, prophète Jérémie, la mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante, dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. Encore quelque chose d'intéressant concernant ces sauterelles, ces démons, c'est que ils vont attaquer la terre, c'est-à-dire les hommes de la terre, mais ils n'ont pas la liberté complète. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Le diable a beaucoup de puissance. Il y a des chrétiens qui sous-estiment la puissance du diable. Il ne faut pas le sous-estimer, le diable. Il ne faut pas le surestimer non plus, parce qu'il est limité. Il peut aller jusqu'à là où Dieu le permet. L'histoire de Job le prouve. Mais ici, de nouveau, ce n'est pas Job, mais c'est le même principe, n'est-ce pas? Dieu dit, tu ne toucheras ni aux arbres, ni à l'herbe verte, ni aux hommes qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Donc, ils sont limités par Dieu dans ce qu'ils peuvent faire. Jean termine cette petite partie en disant, le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après ça. Ouh là là, n'est-ce pas? 5 mois de souffrance, de douleur insupportable, et ça n'est que le premier des 3. Le 6e ange sonnait de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades, j'en entendis le nombre. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes des lions. De leur bouche, ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre, qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas de leurs œuvres, de manière à ne point adorer des démons, des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Sixième ange. Sonne sa trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Dans le temple à Jérusalem, il y avait devant le voile un autel d'or avec quatre cornes. C'est l'autel des parfums. Ce n'est pas l'autel des holocaustes qui est dehors, mais c'est l'autel des parfums qui est à l'intérieur, sur lequel un sacrificateur, tous les jours, vers 3h, 3h30, il entre dans le sanctuaire, dans le lieu saint, avec une poêle. Et dans sa poêle, il a mis des charbons brûlants qu'il a pris de l'autel des holocaustes. Il entre dans le temple, dans le sanctuaire. Il dépose le poêle sur l'autel d'or avec les quatre cornes, l'autel des parfums, et il met de l'encens dessus. Et l'odeur et la fumée de l'encens monte au plafond, symbolisant les prières d'adoration des saints. N'oublions pas que les autels et tout le reste, d'abord dans le tabernacle et puis dans le temple, sont seulement des copies des vrais qui sont au ciel, n'est-ce pas? Moïse devait faire tout selon le modèle qui lui a été montré. Alors, Dieu a dit à Moïse, « Tu feras un autel pour brûler les parfums, tu le feras de bois d'acacia, sa longueur sera d'une coudée, sa largeur d'une coudée, il sera carré, et sa hauteur sera de 2 coudées. Une coudée, c'est à peu près 45-46 centimètres. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. » Donc c'est certainement de cet autel-là que Jean a vu. Intéressant parce que au moment où Jean voit cette vision, cet autel n'y est plus. Jean reçoit sa vision de l'Apocalypse dans l'an 95. Et le temple, avec tous ses autels, a été détruit 25 ans auparavant, dans l'an 70. Est-ce que Jean voit quelque chose qui a été, ou est-ce qu'il voit l'autel au ciel? Ceci ne se passe pas au ciel. La grande tribulation n'est pas au ciel, c'est à Boisvillers, entre autres, n'est-ce pas? C'est sur la terre. Alors, de quel autel est-ce qu'on parle? Pas si compliqué que ça. Le temple va être reconstruit. Et cet autel que vous voyez ici n'est pas une peinture, c'est une photo. C'est pas une peinture de l'autel de il y a 2000 ans, mais c'est la photo de l'autel des parfums qui a déjà été construit par les Juifs en Israël pour le placer dans le sanctuaire quand le nouveau temple sera construit. Ceux qui vont avec moi en Israël, on le visite. Vous l'avez vu, hein, frères et sœurs, à l'Institut du Temple. On l'a vu. Il n'est pas permis de prendre des photos. Mais vous ne le dites pas que je vous l'ai montré. Hein. Encore une fois, une preuve que le temple va être reconstruit. C'est littéral, ça. La voix venant des quatre cornes de l'autel, c'est ici, on appelle ça des cornes, vous voyez? La voix venant des quatre cornes de l'autel dit au sixième ange qui avait la trompette, « Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. » Qui sont ces quatre anges? Il faut essayer de les identifier. Qu'est-ce que ça représente? Si je vous dis qu'il y a 36 explications différentes, l'une plus farfelue que l'autre. Aujourd'hui, on identifie par exemple M. Poutine, président Obama, etc. Essayons quand même de les identifier sur base de la parole de Dieu. La première question à poser, s'agit-il de bons anges ou de mauvais anges? Ce sont des anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. L'Euphrate dans la Bible, c'est toujours mauvais. C'est toujours négatif. Toujours considéré comme un centre d'occultisme, d'astrologie, d'idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu dit déjà à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, parce qu'il habite au bord de l'Euphrate. » Et tout le contexte indique qu'il s'agit de mauvais anges, donc de nouveau des démons, n'est-ce pas? Et ce sont des anges qui sont liés, donc qui ne savent pas à l'heure actuelle exercer leur ministère. Mais dans la région de l'Euphrate, où est-ce que c'est l'Euphrate? Aujourd'hui, on appelle cette région les pays qui sont sur les bords de l'Euphrate. C'est l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. Et si vous regardez le journal télévisé, il n'est pas besoin de vous dire que le scénario que nous avons ici est en train d'être préparé, c'est clair. N'est-ce pas? Où est-ce qu'il y a dans le monde pour le moment le plus de terrorisme, de barbarisme? C'est là. Ce n'est pas nouveau, mais ça va de mal en pire. Mais nous n'avons encore rien vu. Maintenant, le Saint-Esprit retient le diable encore, comme dit l'apôtre Paul. Mais au moment donné, les armées sous la commande de ces quatre anges vont être libérées. À un moment qui a déjà été prédéterminé par Dieu. Ils n'ont pas liberté d'action. Les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. C'est fixé, n'est-ce pas? Il n'y a aucun hasard. Et quand le moment arrive qui a été programmé, planifié par Dieu, ils vont tuer un tiers de la population de la terre. Ce que nous voyons maintenant, comment ça s'appelle, l'État islamique, avec tout leur barbarisme, Ce n'est qu'un nom d'œuvre, n'est-ce pas ça? Ces armées vont tuer un tiers de la population du monde. Même les deux guerres mondiales n'ont pas réussi à faire ça, aussi terribles qu'elles étaient. Les quatre anges furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Ils crachent du feu, de la fumée et du soufre. De leur bouche, ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Ça fait penser quand même à des armes sophistiquées modernes, n'est-ce pas? Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. 2 × 10 000 × 10 000, ça fait 200 millions. Le nombre des cavaliers, des chauffeurs de tanks, etc. L'armée, les armées des quatre pays que j'ai mentionnés n'arrivent pas du tout à 200 millions de soldats. Mais leurs alliés sont entre autres les Russes, les Chinois. Deux tiers de la population du monde échappent à ces plaies. On aurait pensé qu'ils vont se dire « Ouh, un tiers de la population déjà tuée, c'est maintenant le moment de se convertir à Dieu. » Mais non, ils ne se repentent pas. Ils continuent. Ils ne se repentent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer des démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vent. Le cœur de l'homme est méchant, pécheur, mais aussi orgueilleux, n'est-ce pas? Il ne veut pas admettre qu'il a tort. Alors, avant de commencer avec le dernier des sept trompettes, le septième donc, il y a trois événements qui se passent, qui ont lieu entre la sixième et la septième trompette. D'abord, il y a un petit livre qui est ouvert. Deuxièmement, le temple est mesuré. Et troisièmement, il y a deux témoins de l'Éternel qui vont exercer leur ministère. Donc, on dirait une pause entre le sixième et la septième trompette. Pas une pause dans la tribulation, les tribulations continuent. Mais trois choses, événements qui marquent ce moment. Apocalypse 10, « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. » Ah, celui-ci n'est donc pas un démon, c'est un autre ange. Enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Clairement, pas un de ces sauterelles, n'est-ce pas? C'est un ange qui vient de Dieu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange, qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche comme doux comme le miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Encore une fois, un texte qui, à première vue, semble très compliqué, très difficile à comprendre. Mais quand nous allons l'analyser, le décortiquer un peu, vous allez voir qu'ensemble, ce n'est pas du tout si compliqué que ça. Le petit livre est apporté du ciel à la terre par un ange vêtu d'une nuée et d'un arc-en-ciel. Un ange qui vient de Dieu donc, avec toute sa souveraineté. Et quand l'ange arrive, il donne un message à Jean que Jean veut commencer à écrire comme il a écrit tout le reste. Et l'ange dit non, non, pas ça. N'écris pas ça. Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, j'entendais du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. Le prophète Daniel a aussi reçu des messages prophétiques qu'il devait garder secrets. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il y a des choses que Dieu a choisies pour une raison ou l'autre de ne pas révéler à ses enfants. Ça n'empêche pas qu'il y a des enfants qui essayent de deviner ce que Dieu n'a pas révélé. Je ne les ai jamais compris. Moi, j'ai assez avec ça, moi, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de plus. Ça, je trouve déjà plus qu'assez. Ce que Dieu n'a pas écrit, je veux bien attendre jusqu'à ce qu'on soit au ciel. Inutile d'essayer de deviner ce que ce message secret contient. Mais le petit livre que Dieu en reçoit, lui, il n'est pas scellé, il est ouvert. Et quand un livre est ouvert, ça veut dire qu'on peut le lire. Son contenu est rendu public. L'ange posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour un juif, ce n'est pas compliqué. Posez votre pied, vous prenez possession, vous établissez votre droit. Dieu dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Alors, l'ange met un pied sur la mer, l'autre sur la terre. La planète est à Dieu. Et l'ange que je voyais debout, sur la mer et sur la terre, leva la main droite vers le ciel. Quand est-ce que nous levons la main droite? Pas à l'Église, mais quand est-ce que nous levons la main droite? Quand nous prêtons serment, n'est-ce pas? Et la proclamation qui suit porte toute l'autorité de Dieu. L'ange que je voyais debout sur la mer, sur la terre, leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont. C'est qui ça? C'est Dieu. Il n'y aura plus de temps. Plus de délai. Plus d'attente. Maintenant, bien que les Juifs et l'Église prient depuis des millénaires que le Messie vienne, jusqu'à maintenant, il tarde. L'apôtre Pierre explique pourquoi. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de la patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu est énormément patient, n'est-ce pas? Mais même la patience de Dieu, il arrivera à un moment où c'est fini. Même la patience de Dieu n'est pas infinie. Et l'ange jouera qu'il n'y aurait plus de temps. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Le mystère de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ce mystère de Dieu qui sera complet pendant le jugement de la septième trompette? C'est clair que ce mystère a quelque chose à faire avec ce que Dieu a révélé à ses prophètes. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Mystère de Dieu. Je voudrais passer le reste de notre soirée ensemble à vous parler de ça, parce que ça fait partie de notre compréhension, non seulement de l'Apocalypse, mais du Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, il y a des mystères qui sont révélés, qui ont tous leur accomplissement dans l'Apocalypse. En somme, le Nouveau Testament révèle 8 différents mystères, ou si vous voulez, 8 parties du même mystère. Vous pouvez le regarder comme vous voulez. C'est, si vous voulez, comme un gâteau qu'on coupe en 8 morceaux. Ça fait partie du même gâteau, mais chaque morceau est séparé. Et Jésus dit à ses disciples, « C'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu. » Ah, donc ceux de l'Ancien Testament ne l'ont pas eu. C'est à vous qui a été donné. Pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Ils ont les paroles, ils ont les images, mais ils n'ont pas compris la signification. Mais vous, disciples, chrétiens, le mystère vous est révélé. Le premier mystère révélé dans le Nouveau Testament, c'est Jésus lui-même. L'apôtre Paul, il rend grâce à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles et manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la loi. L'apôtre Paul écrit, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. » Et il demande, « Priez pour moi afin qu'il me soit donné par, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. » Le mystère de Dieu, savoir Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Les Juifs n'ont jamais compris exactement qui était et ce que ferait le Messie jusqu'au jour. À nous, les enfants de Dieu, de le comprendre. N'est-ce pas? La mort et la résurrection de Jésus, la signification n'est plus un mystère. C'est révélé. Deuxième mystère révélé dans le Nouveau Testament, c'est le mystère de l'avenir d'Israël. Dans l'Ancien Testament, les Juifs étaient un peu dans le vague. Ils n'ont jamais eu d'assurance du salut. Ils avaient une espérance de salut, mais pas une assurance. Ils avaient un espoir du pardon de péché, mais jamais une certitude. Le sang des millions d'animaux qu'ils ont sacrifiés au tabernacle, dans le temple, couvrait leur péché. Mais n'ôtez pas leur péché. Mais l'agneau de Dieu ôte le péché du monde. Alors la position d'Israël, l'apôtre Paul révèle la position d'Israël sous la Nouvelle Alliance ainsi que sa relation à l'Église. Considère donc la bonté, la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. De même, les Juifs, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Paul parle des Juifs qui accepteront Jésus. Aujourd'hui, on les appelle les messianiques. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon ce qu'il est écrit, « Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Toute cette doctrine qui a été très fortement répandue dans les églises et qui l'est encore dans certaines églises, la doctrine qui dit que Dieu a rejeté Israël, que l'Église a remplacé Israël, cette doctrine ne trouve aucun fondement dans la parole de Dieu. Au contraire, la parole de Dieu révèle que les messianiques, qui maintenant les Juifs qui se convertissent en de plus en plus grand nombre au Seigneur maintenant, ça n'est que le début. Il va venir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de Juifs au Seigneur. Et quelle est la relation entre Israël et Dieu? La même relation qu'il y a toujours eu entre Israël et Dieu. Israël est le peuple de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'Israël est parfait, que les Juifs ne sont pas pécheurs, ils sont pécheurs comme nous le sommes. Et ils ont besoin de salut en Jésus-Christ comme nous en l'avons. Hein? Ne croyons non plus pas qu'il y a un autre chemin au ciel pour les Juifs. J'ai un peu peur parfois de certains mouvements dans le christianisme, certains mouvements pro-Israël, qui au moins donnent l'impression que nous avons besoin de venir par Jésus, mais un Juif est privilégié et il peut venir par un autre chemin. Alors que Jésus dit « Je suis le chemin ». Il ne dit pas « Je suis un chemin », il y a des autres. Hein? Le pape est allé prier avec des imams et avec des rabbins et tout ça. Pour moi, il peut prier avec eux, j'ai rien contre ça. Mais Allah n'est pas le Dieu de la Bible. Et un rabbin ne vient pas à Dieu sans Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Et une prière qui n'est pas au nom de Jésus n'est pas une prière. Mais heureusement que les Juifs reconnaîtront, comprendront qu'ils ont eu tort de rejeter le Messie. Chaque Juif individuellement. Accepter Jésus n'est jamais collectif, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que votre épouse est chrétienne que vous l'êtes aussi. Chacun doit venir au Seigneur personnellement. Mais le mystère d'Israël n'est plus un mystère. Nous connaissons son avenir, comme nous connaissons le nôtre. Le premier mystère était Jésus. Deuxième, l'avenir d'Israël. Le troisième mystère, et ça nous intéresse encore plus, c'est l'avenir des saints. Nous donc. Dans l'Ancien Testament, on n'était jamais sûr de son avenir. On faisait son mieux, on espérait qu'on aurait gagné assez de points et qu'on irait au ciel, mais on n'était jamais sûr. Mais Paul écrit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Il ne parle pas à des non-convertis, là, il parle à l'Église, aux saints. L'Ancien Testament prévoyait la vie éternelle pour les saints, mais restait très vague quant à leur condition, leur façon d'arriver au ciel. Mais le Nouveau Testament révèle ce mystère. Nous allons être changés, transformés. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, donc ce n'est plus un mystère parce que nous le savons déjà, nous serons semblables au pasteur Pascal Scravat. Ce n'est pas un livre de prophétie. C'est une reconnaissance que ce n'est pas ça. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Pas tel qu'il était, mais tel qu'il est. Ça, c'est quand même intéressant. Nous ne verrons pas Jésus comme les bergers près de Bethléem l'ont vu, comme petit enfant. Nous ne verrons pas Jésus comme adolescent de 12 ans au temple, comme les gens qui étaient au temple à l'époque l'ont vu, dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant. Nous ne verrons Jésus même pas qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Nous ne verrons même pas Jésus crucifié. Nous ne verrons même pas Jésus ressuscité des morts. Nous ne verrons même pas Jésus comme les disciples l'ont vu quand il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Toutes ces images sont des images historiques. Jésus tel qu'il était, tandis que nous le verrons tel qu'il est, dans sa gloire éternelle. Amen. J'ai encore une bonne nouvelle. Vous allez être très contents d'être venus ce soir. Ceci, c'est formidable. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous partagerons la gloire que Jésus y a. N'est-ce pas? Je vais finir quand même par être beau. Hein? Amen. De préférence avec des cheveux. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Notre cité à nous, c'est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Et quand est-ce que cette transformation va avoir lieu? Eh bien, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Tous ceux qui passent des heures dans ces salons de beauté qui coûtent si cher. Ce ne sera pas nécessaire, ça n'existe pas au ciel. En un clin d'œil, on sera transformé en un instant à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça n'est plus mystérieux, ça. Nous savons exactement ce qui nous attend. Pensons à cela, n'est-ce pas, quand on a des bobos. Hein? Ce n'est pas pour toujours ces bobos. Ça va être remplacé. Ce corps corruptible va devenir incorruptible. Quatrième mystère dans le Nouveau Testament, c'est le mystère de la volonté de Dieu. Oui. La volonté de Dieu a souvent été mystérieuse, n'est-ce pas? Tous les peuples, dans toutes les religions, se sont demandé et se demandent toujours qu'est-ce que Dieu veut exactement de nous? Les Juifs avaient leur tablette de pierre avec leurs 10 commandements. En plus de ça, ils avaient des livres avec encore 603 commandements. En plus de ça, ils avaient ces 2 pierres précieuses appelées Urim et Thummim sur le pectoral du souverain sacrificateur. Mais même toutes ces lois et tout ça ne couvraient pas toutes les circonstances, ne répondaient pas à toutes les questions. Et leur interprétation était parfois compliquée, difficile, vague. Est-ce que c'est la même chose pour nous? Pas du tout. En lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce, nous n'avons pas besoin de chercher dans 613 lois, dans des Urim ou des Thummim, nous n'avons que de chercher dans le sang de Jésus, nous avons tout. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Qu'est-ce que c'est sa volonté? Le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même? Difficile. Que l'on croit en Jésus-Christ, qu'on l'accepte comme sauveur, et on a l'assurance du péché. Un merveilleux verset, 1 Jean 5:13. Je vous ai écrit ces choses, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez, vous avez la vie éternelle. Pas espériez, mais sachiez. Cinquièmement, le mystère de l'Église. Et cela nous concerne aussi parce que le mystère de l'Église, c'est pas seulement, mais surtout, le mystère de l'avenir des païens. Les Juifs, c'est clair, mais les païens, dans l'Ancien Testament, les païens n'avaient pas d'espoir. Dieu était le Dieu d'Israël, n'était pas le Dieu des Belges. Et seul Israël était le peuple de Dieu, seuls les Juifs avaient accès au ciel. Mais le Nouveau Testament change tout cela. Hein? Alléluia. Maintenant, Juifs, non-Juifs, ont le même accès au ciel. Jésus dit, je suis le chemin. C'est par révélation, écrit Paul. Et dans son cas, juste comme dans le nôtre, il fallait que ce soit par révélation divine. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère, c'est un juif qui écrit ceci, hein, c'est que les païens sont co-héritiers. Quelle idée! Un juif aujourd'hui même n'accepte pas ça. Et Paul était un juif, très juif. Mais Dieu le lui a révélé. Connaissez l'histoire, chemin de Damas. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Et de mettre en lumière quelle est la disposition, dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, donc Christ en nous, n'est-ce pas? L'espérance de la gloire. Formidable. Ce n'est plus un mystère. L'Évangile n'est pas du tout mystérieux, c'est clair. C'est pas théorie, c'est vérité. Sixième mystère, révélé dans le Nouveau Testament, c'est le mystère de l'iniquité. Nous avons déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça, nous le savons, je n'ai pas besoin de vous le dire. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. L'homme cherche toujours à savoir la cause des malheurs qui lui arrivent. Pourquoi un péché? Pourquoi une maladie? Est-ce qu'il y a une personne coupable, un mauvais passé, circonstance? Quelle est la raison? Les gens de l'Ancien Testament n'ont guère compris la vraie racine de tous les maux. C'est le diable, n'est-ce pas? Directement ou indirectement, Satan est derrière tout péché, toute maladie. Vous connaissez l'histoire de Job? Il se casse la tête pour essayer de comprendre pourquoi tous ces malheurs lui arrivent. Il n'arrive pas. Il a des soi-disant amis qui viennent l'accuser de péché, d'incrédulité, d'apostasie, d'hypocrisie. Ils ont tous tort. Nous qui avons lu le livre de Job, nous savons que c'est le diable qui est derrière. Dans les coulisses, dans les lieux célestes, il y a une lutte entre Dieu et le diable. Quand le prophète Daniel prie, il ne comprend pas pourquoi il ne reçoit pas de réponse, jusqu'à ce qu'un ange vienne vers lui pour lui dire, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse, synonyme du diable ou d'un démon, m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Vous avez compris? Dieu a envoyé la réponse dès que Daniel a commencé à prier. Mais le diable a tout fait pour empêcher la réponse à arriver jusqu'aux serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais je pense que ça n'est pas un cas unique. N'est-ce pas? Je crois que c'est un exemple. Et voilà pourquoi nous devons prier sans cesse. Si Dieu n'a pas encore répondu, il se peut que c'est parce que le diable essaye d'empêcher, de retenir la réponse. Alors n'arrêtons pas de prier jusqu'à ce que la réponse n'arrive. Parce que nous n'avons pas à lutter contre le chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est plus un mystère, hein? Nous comprenons pourquoi ça va mal dans le monde. Nous comprenons pourquoi il y a des problèmes dans notre vie. Nous comprenons pourquoi parfois des réponses à nos prières tardent à arriver. Et la réponse est toujours la même. Satan, 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 Satan. Toujours le même. Jésus a bien compris ça. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Ce n'est pas la faim de Jésus qui le tente de changer des pierres en pain, c'est le tentateur qui le tente. Depuis le jardin d'Éden, la convoitise, les mauvais désirs qui tentent et qui conduisent au péché viennent tous du diable. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne gagnent jamais la victoire sur le péché, par exemple. Ils luttent seulement contre leur convoitise, contre leurs désirs mauvais. Ils ne luttent pas contre le diable. Ils se servent d'armes charnelles, telles que la conviction personnelle, la maîtrise de soi, des bonnes intentions, plutôt que de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice pour chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. N'essayons pas de combattre le diable avec des armes charnelles, c'est perdu d'avance. Ce même principe s'applique aussi à la maladie. Il y a tant d'exemples dans la parole de Dieu, je vais me limiter à un seul. Il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Jésus voit cette femme, elle est courbée depuis 18 ans, elle ne sait pas marcher, elle ne sait pas se redresser. Nous, on l'enverrait à l'hôpital, on ferait un scanner, on dirait, « Ah oui, madame, votre colonne vertébrale, il y a des problèmes. » Seulement, si vous envoyez cette dame pour un scanner, on voit rien. Parce que son problème n'est pas physique, son problème est spirituel. Elle est liée par le diable. Jésus dit, Satan la tenait liée depuis 18 ans. Voilà pourquoi dans cette histoire, Jésus ne la guérit pas, elle le délivre. Eh bien, c'est une autre étude biblique, mais nous avons besoin de discernement pour savoir quand s'agit-il de maladie, quand s'agit-il de lien. Ce n'est pas un virus, ce n'est pas un microbe, c'est Satan lui-même. Et alors, dans son cas-là, pilule, médicaments, traitement ne l'aiderait pas. Kiné, inutile. Il faut la délivrer. Un autre exemple. Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ouh, ça c'est dur, non? Ça nous semble très dur. Après tout, vous êtes d'accord avec moi? Pierre, il a des bonnes intentions, n'est-ce pas? Il veut épargner Jésus de la croix et de la mort. Il veut l'encourager. Mais Jésus comprend que ce que Pierre dit ne vient pas seulement de ses bonnes intentions, mais que ses pensées sont insufflées par le diable, qui lui ne veut pas que Jésus meure. Non. Pourquoi pas? Parce qu'il sait que si Jésus meurt, il vaincra le péché et la mort. Attention, je ne dis pas que Satan ne veut pas le tuer. Il veut bien ôter la vie à Jésus. Ce qu'il ne veut pas, c'est que Jésus donne sa vie. Il faudrait expliquer une autre étude pour expliquer tout cela en profondeur. Mais quoi qu'il en soit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Et nous, à qui ce mystère a été révélé, nous comprenons. Même toutes ces choses atroces qui se passent maintenant au Moyen-Orient. Oui, c'est l'État islamique et les autres, le Taliban et que sais-je encore, Al-Qaïda, qui le fait. Mais ce sont des outils, des instruments du diable, n'est-ce pas? C'est le diable qui est derrière. Voilà pourquoi nous, en priant, nous pouvons exercer une influence, n'est-ce pas? Il y a des jeunes qui sont radicalisés, qui vont aller combattre avec l'État islamique. C'est tous les jours dans les journaux aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'aller au Moyen-Orient pour combattre du bon côté. Il suffit d'aller à genoux. Septième mystère, le mystère de la foi. Le mystère de la foi, dit Paul, dans une conscience pure. Le mystère de la foi ici, c'est synonyme de la doctrine centrale de l'Évangile, c'est-à-dire que le salut n'est pas par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Un juif, même un catholique, un islamiste, un bouddhiste, un hindou, comprendra jamais cela. Parce que dans toutes les religions du monde, toutes les grandes religions du monde, il faut gagner son salut. Seulement, l'Évangile nous dit, c'est déjà gagné. Le prix est déjà payé. Il suffit de l'accepter. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Pour devenir pécheur, il faut faire combien de péchés? Si je veux devenir meurtrier, je dois tuer combien de personnes? Une seule suffit, hein? Et pour devenir pécheur, il suffit de pécher une fois. Alors nous sommes tous des pécheurs, n'est-ce pas? Et le salaire du péché, vous savez ce que c'est. Mais par la foi en Jésus-Christ, nos péchés sont effacés. Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Paul témoigne, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Nous sommes des quiconques, nous, hein? Alléluia. Parce que en lui, en Jésus, et révéler la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le texte qui a déclenché la réformation. Et le dernier mystère, huitième, c'est le mystère de la piété. Intéressant. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Qu'est-ce que c'est que la piété? Qu'on se promène toujours comme ça, long visage. C'est comme ça qu'on l'a compris pendant des siècles, n'est-ce pas, la piété? La piété s'exprimait dans ce qu'on faisait. Le reste des actions du roi Ézéchias et ses œuvres de piété, ses œuvres de piété. Cela est écrit dans la vision du prophète Esaïe. Le reste des actions de Josias et ses œuvres de piété, telles que les prescrit la loi de l'Éternel, ses premières et ses dernières actions, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Néhémie prie, n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. On croyait qu'il fallait faire des bonnes œuvres pour gagner des points au ciel. Seulement personne ne savait combien de points on gagnait, ni combien de points il fallait gagner. Est-ce que 5 sur 10 suffisait? Ou 6 sur 10? On ne savait pas. Donc on n'avait jamais d'assurance. prophète Osée. Difficile à lire et comprendre, mais il a compris, et c'est Dieu qui lui a révélé, que la piété ne vient pas de ce qu'on fait, mais qu'il s'agit de quelque chose de plus profond. J'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Jésus dit, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Paul parle de ces gens-là et dit à Timothée, ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié la force. Il vaut mieux t'éloigner de ces gens-là. Non, le mystère de la piété révélé dans le Nouveau Testament, c'est que la piété n'est pas dans les bonnes œuvres, mais dans le cœur. N'est-ce pas? Nous ne faisons pas des bonnes œuvres pour gagner notre salut. Nous faisons des bonnes œuvres par reconnaissance d'avoir reçu le salut, n'est-ce pas? Et la piété n'est pas des bonnes œuvres, la piété c'est un bon cœur. La piété peut être exprimée en ce qu'on fait, pourvu que cela vient de ce qu'on est. La piété est d'abord dans le cœur. Voilà, 8 mystères, n'est-ce pas, qui ne sont plus des mystères, qui ont été des mystères pendant des siècles, des millénaires, qui le sont toujours pour la plupart des religions et pour la plupart des gens. Mais pour ceux qui se laissent éclairer par la parole de Dieu, mystérieux, le mystère n'est plus mystérieux. Quel privilège, frères et sœurs! Le petit livre est ouvert. Dieu voulant, la fois prochaine, nous allons voir pas seulement les mystères, mais le reste de ce qu'il y a dedans. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
Je remercie Pasteur Williams. Nous allons terminer par la prière et peut-être la louange. Peut-être on va adorer quand même quelques instants le Seigneur pour les choses extraordinaires, les mystères qui ne sont plus des mystères pour nous, hein, que Dieu nous a révélés par grâce extraordinaire. Alors, est-ce qu'on pourrait adorer le Seigneur, le remercier pendant quelques instants? Seigneur, nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, pour cette étude biblique qui nous permet d'approfondir notre foi, de mieux connaître, Seigneur, tout ce que tu nous as révélé par pure grâce, ces mystères qui ne sont plus des mystères pour nous, Seigneur, tu nous les révèles. Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur pour ces paroles. Merci Éternel.